Voici une question dont la réponse en surprendra sûrement quelques-uns. Est-ce que c'est utile d'entendre la parole de Dieu si on n'y croit pas? Les Saintes Écritures vont nous donner une bonne mise en garde aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je pense que vous allez trouver nos questions assez intéressantes aujourd'hui. Je suis certaine qu'on va recevoir un enseignement solide en réponse à ces questions. Alors les voici. Selon la Bible, que signifie l'expression « tenir ferme » ? Qu'est-ce qui se produit quand on cesse de croire à la grandeur et aux perfections infinies de Dieu ? Comment pouvons-nous avoir à nos reins la vérité pour ceinture ? Comment pouvons-nous porter la cuirasse de la justice ? Qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle parle du zèle que donne l'Évangile de paix? Qu'est-ce que le bouclier de la foi? Comment pouvons-nous augmenter notre foi? Est-ce que c'est utile d'entendre la parole de Dieu si on n'y croit pas? Demeurez avec nous. La parole de Dieu va sûrement nous fortifier aujourd'hui, nous faire grandir dans la foi. Le pasteur Régent Joly va répondre à toutes nos questions par cette parole merveilleuse dans quelques instants. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, ton peuple est réuni en ton nom pour entendre ta merveilleuse parole. On aimerait goûter à ta présence aujourd'hui et surtout recevoir ces instructions qui sont si importantes pour chacune de nos vies. Touche nos cœurs, Seigneur, et aide-nous à mettre en pratique chaque jour ce que tu nous enseignes. Merci pour tant d'amour, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que nous devons revêtir l'armure de Dieu et que cette armure est son Fils Jésus-Christ. Il se déroule un combat dans le monde spirituel et nous faisons partie de ce combat. De plus, cette guerre est sans répit. Satan est un esprit, un ange déchu, et il a entraîné de nombreux anges dans sa chute. Si nous sommes réalistes, nous allons croire au combat contre le diable. Si vous ne croyez pas au diable, vous ne croyez pas non plus à la Bible. En fait, vous vous établissez juge sur Dieu qui affirme qu'il y en a un dans sa parole. Nous avons aussi vu que notre esprit est un véritable champ de bataille. Satan peut semer dans notre esprit des doutes, de l'amertume, de l'envie, de la haine et de la fausse doctrine. Satan peut semer en nous de la crainte et des peurs. Finalement, il peut nous pousser à la dépression et au découragement. Chers amis, débutons notre lecture d'Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons identifié l'ennemi. Maintenant, l'apôtre Paul examine l'arsenal à la disposition du chrétien afin qu'il puisse se défendre. Le chrétien n'est pas exhorté à attaquer et à avancer. La parole lui dit de tenir ferme, et c'est le mot-clé de cette dernière section de l'Épître. La parole nous demande de tenir ferme devant les attaques. La Bible dit que le croyant est un pèlerin. Puisque nous sommes des pèlerins, nous devons marcher dans ce monde. La Bible dit que nous sommes des témoins et nous devons l'être jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes des athlètes qui doivent courir pour remporter le prix. Nous devons fixer nos yeux vers Jésus pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Cependant, lorsque la Bible emploie le mot « combattant » pour décrire un croyant, elle dit de tenir ferme. Il y a plusieurs décennies, Billy Sunday, un évangéliste, a attiré beaucoup d'attention. Alors qu'il se tenait sur une estrade, il affirmait qu'il combattait le diable. Il y avait un élément de vérité dans cet énoncé parce qu'il participait à un combat spirituel. Ce combat est livré partout où la parole de Dieu est prêchée et l'évangile proclamé. C'est là que se trouve la ligne de front. C'est là que l'ennemi concentre ses efforts. L'ennemi ne se trouve pas dans les boîtes de nuit ou dans d'autres types d'endroits malsains. Priez-vous pour votre pasteur? Le samedi soir, priez-vous pour votre pasteur plutôt que de le critiquer. Priez pour lui. Il a besoin de vos prières. Le diable s'oppose suffisamment à son travail. La foule qui crucifie ceux qui prêchent la parole de Dieu n'a pas besoin de renfort, encore moins de votre aide. Vous devriez plutôt lui tenir la main, comme Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse alors qu'Israël combattait Amalek. En effet, lorsque Moïse baissait les mains, les Amalecs avaient le dessus. Lorsque ses mains étaient élevées vers le ciel, Israël était le plus fort. Puisque les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur les supportèrent. C'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 17. Je sympathise avec les pasteurs dont les membres de son église ne l'appuient pas. Le combat spirituel est un combat corps à corps. Pour nous faire tomber, le diable veut que nous doutions de Dieu. C'est la tactique qu'il a utilisée avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse, chapitre 3, verset 1er. Une fois que nous doutons de Dieu, nous rejetons sa parole. Le diable nous fait douter de la bonté, de l'amour, de la sagesse, de la miséricorde, de la colère et de la justice de Dieu. Lorsque nous cessons de croire à la grandeur et aux perfections infinies de notre Dieu, nous cessons de lui faire confiance. Le diable nous fait aussi céder à l'anxiété, au découragement, au désespoir, à la confusion et à la fausse doctrine. Le combat contre le diable est un combat corps à corps. Nous y sommes personnellement impliqués. Nul n'échappe au combat. Les temps de combat intense sont les temps de persécution et les temps de prospérité. Pendant les persécutions, Satan fait périr et emprisonner les chrétiens. Pendant les temps de prospérité, il détourne nos regards de Dieu pour les tourner vers les biens matériels. Nous cherchons avant tout les richesses, une prospérité terrestre, les plaisirs et les divertissements. Nous détournons nos regards du monde spirituel. Poursuivons notre lecture d'Éphésiens 6, les versets 14 et 15. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tenez donc ferme. C'est la quatrième fois que l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à tenir ferme. C'est le seul endroit où Paul est si direct et qu'il parle comme un sergent. Au chapitre 4, il a dit « Je vous exhorte donc ». Mais maintenant, il ordonne de tenir ferme. Non seulement devons-nous nous tenir debout, mais nous devons porter une armure afin de nous protéger. Nous ne devons pas être déjoués par les ruses du diable, mais nous devons être prêts pour contrer ses attaques. La ceinture de la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. À cette époque, la ceinture aux reins tenait en place toutes les autres pièces de l'armure ou de l'uniforme d'un soldat. C'était donc une pièce essentielle. Si la ceinture se détachait, plus rien ne restait en place. Dans les premières comédies hollywoodiennes, nous voyons souvent des personnes essayer de courir ou de se battre les pantalons baissés. C'est peut-être drôle dans un vieux film, mais certainement pas sur un champ de bataille. La vérité est ce qui tient tout l'ensemble. Nous devons donc bien connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de personnes qui proclament fidèlement la parole de Dieu. telle qu'elle est dans la Bible et sans la déformer. Aujourd'hui, de nombreuses personnes donnent des témoignages, des joueurs de football, des joueurs de hockey, des vedettes de cinéma et de la télévision. Plusieurs de ces personnes ne connaissent pas la Bible davantage qu'une chèvre qui broute dans les prés. Nous avons besoin de personnes qui ont à leur rein la vérité pour ceinture. Elles doivent bien connaître la parole de Dieu. Nous connaissons de nombreuses personnes célèbres qui ont joint les rangs de sectes. Certains témoignages sont très touchants, mais ils sont donnés par des personnes qui sont sur le point de voir leur uniforme se défaire et tomber. Elles ne portent pas la ceinture de la vérité, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce de l'armure nous parle du Seigneur Jésus. Nous sommes en Christ Jésus dans les lieux célestes, et nous devrions le revêtir pour notre marche quotidienne ici-bas sur terre. L'apôtre Paul nous a déjà dit de revêtir le Seigneur Jésus. Il est la vérité et nous devrions le revêtir. Tout témoignage qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus ne devrait pas être donné. Trop de témoignages glorifient l'individu. « J'étais un grand athlète » ou « J'étais un grand artiste et maintenant je remets mon talent merveilleux à Jésus. » Nous pourrions paraphraser de tels témoignages ainsi. « Croyez-moi, Jésus est chanceux que je me sois associé à son Église. » Mes amis, c'est vous qui êtes chanceux si vous l'avez. Il n'a pas obtenu grand-chose lorsqu'il vous a obtenu, et encore moins lorsqu'il m'a obtenu. Nous vivons dans une période où l'on fait très peu de place aux petits. Nous pensons toujours qu'il nous faut une vedette ou une personne connue. Ce que nous avons besoin, c'est de porter la vérité comme ceinture, afin que nous puissions donner des témoignages qui glorifient le Seigneur Jésus. Jésus est la vérité. Seule la vérité peut corriger l'erreur. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Le diable fait tout pour nous entraîner dans des sectes ou de la fausse doctrine. Le meilleur remède contre l'enseignement des sectes est la vérité. Nous trouvons cette vérité dans la parole de Dieu. Renonçons à toute forme d'hypocrisie. Avoir la ceinture de la vérité consiste aussi à renoncer à toute forme d'hypocrisie. Nous ne prétendons pas être plus spirituels que nous le sommes. Non seulement devons-nous connaître la vérité, mais nous devons y croire sincèrement. Nous ne portons pas vraiment la ceinture de la vérité si nous n'avons qu'une connaissance intellectuelle. Nos croyances ne sont alors qu'un système philosophique parmi d'autres. Lorsque nous croyons vraiment quelque chose, nous agissons en conséquence. Nos actes reflètent notre foi. Avoir la vérité pour ceinture, c'est avoir l'Esprit Saint qui renouvelle notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Ceci condamne ceux qui négligent d'étudier la vérité sérieusement. Nous sommes disposés à passer des heures devant la télévision et à faire toutes sortes de lectures qui proposent des recettes pour régler tous les problèmes imaginables. Ces médias nous présentent des philosophies contraires à la parole de Dieu. Nous ne réservons que quelques minutes pour lire un verset et accompagner d'une pensée dans un livre de méditation quotidienne. Nous affirmons ne pas avoir le temps de lire la Bible. Il ne faut pas s'étonner que nous ne connaissions pas Dieu et sa parole et que notre armure se détache lorsque nous luttons contre notre adversaire spirituel. La cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Le Seigneur Jésus est la justice du croyant. Cependant, je pense que cela comprend aussi une vie vécue dans l'obéissance au Seigneur Jésus. En effet, lorsque le Seigneur Jésus nous donne sa justice, cela rend possible la justice de marcher dans les voies de Dieu. Ne portons pas les vêtements souillés de notre justice personnelle. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe. Chapitre 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ces vêtements souillés sont des cuirasses inefficaces. Cependant, sous la cuirasse, il est nécessaire d'avoir un cœur et une conscience en paix avec Dieu. Seule la justice du Seigneur Jésus permet à un croyant de se tenir devant les hommes et devant Dieu. Mais le cœur protégé ne doit pas condamner le croyant. Il est difficile de tenir ferme au combat si notre cœur nous condamne. Il est impossible de gagner lorsque nous sommes dans cet état. La cuirasse est la pièce de l'armure la plus importante, car elle protège le cœur. Sans la justice qui vient de Dieu, qui nous est donnée par Dieu, nous ne pouvons pas être victorieux. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains chapitre 5 verset 17. Le zèle que donne l'Évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Nous avons besoin de bons souliers pour nous tenir debout. Ils sont la fondation. Il nous faut une bonne fondation solide. Si vous avez déjà fait du combat corps à corps, vous avez appris qu'il faut bien ancrer vos pieds. Vos chaussures ne doivent pas glisser. Est-ce que vos pieds sont ancrés sur le roc? Le Seigneur Jésus est votre fondation dans ce monde, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Nous devons revêtir le Seigneur Jésus. Nous avons besoin de lui dans ce monde contredisant et méchant, enfoui dans les ténèbres. Le soldat veut un bon soulier qui correspond au type de sol sur lequel il combat. Un soldat avec des pieds blessés, enflés et avec des ampoules ne peut être efficace. Il peut difficilement se tenir debout pour combattre. Le croyant est appelé à propager la bonne nouvelle de la paix avec Dieu. Tenons ferme dans l'assurance de l'amour de Dieu. Une personne qui tient ferme dans la puissance du Seigneur n'a pas à craindre Satan. Voici des versets qui résument l'Évangile que nous devons proclamer. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 6. Cet évangile nous garde près de Dieu et nous donne de la puissance pour le combat. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Colossiens chapitre 1, versets 5 et 6. Maintenant, retournons à notre texte d'Éphésiens chapitre 6 et lisons cette fois les versets 16 à 18. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'armure du croyant est une armure spirituelle parce que nous combattons un ennemi spirituel. Nous devons porter cette armure afin de tenir ferme. Cette armure est le Seigneur Jésus lui-même. Satan lui-même, dans le livre de Job, décrit comment Dieu protège les siens. Il dit : « Ne l'as-tu pas protégé ? lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Job, chapitre 1er, verset 10. « Dieu nous protège au moyen de l'armure qu'il a pourvue pour nous. Le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » Le bouclier couvrait toute l'armure. Ce bouclier avait les dimensions d'une porte. Il était utilisé par l'infanterie lourde. Un soldat se tenait derrière le bouclier et il était entièrement protégé. Le Seigneur Jésus est la porte du salut et la porte qui protège le croyant de l'ennemi extérieur. C'est l'image que nous retrouvons dans le chapitre 10 de l'Évangile selon Jean. Le Seigneur Jésus est notre salut et notre sécurité. La foi nous permet d'entrer par la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. L'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 9. C'est ça le salut. Qu'en est-il de la sécurité? La foi nous place solidement dans les mains du Seigneur, Jésus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Les traits enflammés du malin. Il pleuvent sans répit, chers amis. Le diable ne cessera pas d'en lancer. Seul le bouclier de la foi les arrête. Étudions la parole pour augmenter notre foi. C'est en entendant et en étudiant la parole de Dieu que notre foi augmente. La foi est un don de Dieu et sa parole est l'instrument qu'il utilise pour nous la donner. Avoir la foi, c'est faire confiance à quelqu'un ou quelque chose. La foi a toujours besoin d'un objet. L'objet de notre foi est le Seigneur Jésus et son œuvre rédemptrice à la croix. C'est en connaissant le Seigneur Jésus davantage que notre foi augmentera. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Entendre la parole sans avoir la foi est inutile. Complètement inutile. Jésus prêcha à Nazareth, la ville où il fut élevé. Ils refusèrent de croire, et la ville eut peu de bénédictions. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Matthieu chapitre 13, versets 57 et 58. « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Luc chapitre 10, verset 13. Le Seigneur Jésus a prêché à Chorazin et à Bethsaïda. En plus, il y a fait des miracles. Ces villes n'ont pas cru. Alors elles se sont attirées des malédictions. Dieu châtie ceux qui rejettent sa parole. Le croyant qui lit et étudie la Bible, mais qui doute de certaines parties, sera toujours instable dans la marche chrétienne. Il ne connaîtra pas la maturité spirituelle tant qu'il persévérera dans cette attitude. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Citation de l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Chers amis, cessez de douter de cette parole qui est la vérité. La parole de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Éphésiens chapitre 6, les versets 16 à 24.
Merci beaucoup, Régent. J'ai souri quand tu as mentionné que tout témoignage qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus ne devrait pas être donné et que trop de témoignages glorifient l'individu. De mentionner ces personnes célèbres qui disent des choses comme « J'étais un grand artiste et maintenant je remets mon talent merveilleux à Jésus. » Un peu plus loin, Tu as ajouté que Jésus n'avait pas obtenu grand-chose quand il nous a obtenus. Ça, c'est vrai. Et si ça m'a fait sourire, c'est qu'au moment où j'ai reçu le salut, j'étais une artiste connue au Québec. Mais si j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle, c'était loin d'être parce que j'étais une grande artiste qui méritait quelques privilèges spéciaux. D'ailleurs, je ne saurais évaluer les dons que Dieu m'a accordés. Mais ce que je sais pertinemment, c'est que j'ai reçu ce don par la foi en Jésus seul, par ses mérites seuls. Et quand j'ai vu mon état de pécheresse perdu, j'ai eu tellement honte que je n'aurais pas osé penser un seul instant que ce cadeau m'était dû. Mais ce que je sais, c'est que j'ai cru au Seigneur Jésus, que je me suis repenti, que j'ai dit bien fort, « Seigneur, sauve-moi !» Et il m'a sauvé. Et instantanément, je savais que le jour où je mourrai, j'irai tout droit au ciel pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Quel beau cadeau! Et je n'ai absolument rien fait pour le mériter. Mon ami, ce que je te dis présentement, c'est pour toi aussi. Si tu crois mériter le ciel parce que tu es une bonne personne, je veux bien croire que tu es une réellement bonne personne. Mais dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8 et 9, Paul nous dit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il ajoute, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mon ami, une grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin qu'en plaçant notre confiance en lui seul, on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. C'est pas merveilleux, ça? Reconnais donc que tu es un pécheur, une pécheresse perdue, et reçois ce beau cadeau que le Seigneur t'offre présentement. Tu n'as qu'à croire. Croire au Seigneur Jésus, c'est lui qui a payé ta dette à la croix. Il a souffert pour toi parce qu'il t'aime. Alors maintenant, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et crois au Seigneur Jésus. Demande-lui tout simplement de te sauver. C'est pour toi personnellement qu'il est mort sur la croix. Il a payé la dette de ton péché. Et maintenant, il veut que tu reçoives le pardon de tes péchés et l'assurance de la vie éternelle. N'attends pas à demain. Jésus t'offre ce cadeau présentement. Jésus est vivant. Le troisième jour, après sa mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, et il prépare une belle place pour tous ceux qui auront reçu Jésus, qui l'auront reçu comme leur Sauveur et leur Seigneur. Alors reçois Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, allons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.